Bonjour et bienvenue à Impologie, le balado officiel de l'Agence du revenu du Canada. Je suis votre animateur Carl Philippe et si vous venez tout juste d'arriver au Canada, eh bien je tiens à vous souhaiter personnellement la bienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh bien on va justement aider les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers à comprendre les impôts au Canada et les paiements de prestations de crédit auxquels ils pourraient avoir droit. Parce qu'en plus d'apprendre sur le Canada, tout plein de choses, comme par exemple comment faire une balle de neige, comment rester debout sur patin, savoir sur quel aliment on peut mettre du sirop d'érable ou même si vous allez survivre à la poutine, eh bien, vous devez aussi apprendre comment fonctionne le système d'imposition au Canada. Et puis, en passant, il y avait un piège là-dedans, le sirop d'érable, sachez-le, ça va sur absolument tout. Bref, faire vos impôts peut vous aider, parce que vous pourriez pouvoir demander des frais de scolarité ou recevoir un remboursement, ce qui veut dire que vous avez donc plus d'argent dans vos poches. Vous pourriez aussi avoir droit à des prestations et des crédits tout au long de l'année, en plus qu'il existe des régimes d'épargne libre d'impôts qui peuvent vous aider à épargner pour votre avenir au Canada. Alors, que vous commencez vos études post-secondaires ou veniez d'arriver au Canada pour appuyer les membres de votre famille, on sait que chaque dollar compte et on va être là pour vous tout au long du processus. On va avoir avec nous aujourd'hui à distance Marie-Claude, de l'Agence du revenu du Canada. Elle aide chaque jour les Canadiens et les Canadiennes à comprendre ce que sont les impôts et quels sont les avantages pour eux et va nous faire part non seulement son expertise, mais de toutes les questions qu'elle entend le plus souvent. Alors Marie-Claude, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci de m'accueillir.
Alors dis-moi d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ton rôle au sein de l'agence et la façon que tu interagis avec les nouveaux arrivants et les étudiants étrangers?
Oui, absolument. Donc, je travaille actuellement pour la section de la modernisation de la visibilité des prestations à l'administration centrale. Notre rôle au sein de la visibilité, c'est de donner des sessions d'information aux nouveaux arrivants et aux étudiants internationaux, entre autres, mais aussi aux personnes qui sont en situation de logement précaire, aux personnes en situation de handicap, les autochtones, les adultes de 65 ans et plus, et les jeunes et les étudiants aussi. Donc, le programme de la visibilité, il travaille en collaboration avec les organismes communautaires et les organismes d'aide à l'établissement qui supportent les nouveaux arrivants. Notre but, c'est de sensibiliser les nouveaux arrivants et les étudiants internationaux à l'importance de faire leur déclaration de revenus, de réclamer les crédits et les prestations auxquelles ils ont droit, puis de comprendre le système fiscal canadien, comment ça marche.
Là, dis-moi, pour satisfaire ma curiosité, de quelle façon on donne ces sessions-là?
C'est des sessions d'information qui se donnent en présentiel ou en virtuel. C'est au choix de l'organisme. Donc, on travaille en collaboration avec les organismes communautaires. Les agents de visibilité vont organiser une session d'information, que ce soit en virtuel ou en présentiel. L'organisme envoie l'invitation aux nouveaux arrivants. Et c'est de cette façon-là qu'on transmet les renseignements à ces gens-là.
Donc, on est vraiment capable de les rejoindre où ils sont et dans le meilleur contexte pour eux.
C'est ça. On va à leur rencontre. Au lieu qu'eux viennent nous voir, c'est nous qui allons à leur rencontre.
Excellent. Puis dis-moi, là, qu'est-ce que justement les nouveaux arrivants étrangers devraient savoir au sujet des impôts au Canada? Il y en a beaucoup à savoir.
Oui, effectivement. Donc, pour la plupart des Canadiens, il va sans dire qu'on doit faire nos impôts, on le sait. Mais dans d'autres pays, notamment comme les pays européens, ben les impôts sont produits par le gouvernement. Il y a aussi certains pays dans le monde où c'est même pas nécessaire de faire des impôts. Donc, ça peut être un peu déstabilisant pour les nouveaux arrivants qui arrivent ici. Puis, on ne doit pas présumer que tout le monde sait comment ça fonctionne. Le système fiscal canadien il est basé sur le principe d'autocotisation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir. Ça veut dire que c'est la responsabilité du contribuable de déclarer ses revenus, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays où c'est le gouvernement qui le fait à leur place.
Donc, si je comprends bien, là, il y en a qui vont tout simplement, ne le sachant pas produire de déclaration de revenus.
Effectivement, pour plusieurs raisons. Il y a certains nouveaux arrivants qui ne feront pas leurs impôts. Certains parce qu'ils ne connaissent pas le langage fiscal qu'on utilise. Où ils sont intimidés par tout le processus qui peut être un peu lourd pour eux. Puis notre travail à l'agence, il peut y avoir aussi une barrière de langue, hein, ça c'est super important. Donc notre travail à l'agence, c'est de les aider à comprendre l'importance de faire leurs impôts, mais surtout de réclamer les prestations et les crédits auxquels ils ont droit.
Et puis justement, pour ceux qui nous écoutent, là, est-ce qu'il y a une date à chaque année? Je pense que c'est toujours la même, mais on doit remettre cette déclaration-là. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête pour ne pas échapper à ces prestations et crédits-là?
Et si on veut réclamer des prestations, des crédits puis son remboursement d'impôts, il faut produire la déclaration puis il faut la produire pour le 30 avril de l'année qui suit l'année fiscale. Donc, l'année calendrier du 1er janvier au 31 décembre, c'est l'année d'imposition. On a jusqu'au 30 avril de l'année suivante pour soumettre la déclaration à l'Agence du revenu du Canada. Si on veut éviter des retards dans les prestations, si on veut éviter des intérêts, des pénalités.
Parfait. Et puis là, on parle des sources fréquentes de confusion. Une autre qui existe, c'est vraiment la confusion entre les nouveaux arrivants et la distinction entre le statut d'immigrant et le statut de résident aux fins de l'impôt. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le sujet et nous expliquer comment ça fonctionne? C'est quoi la différence entre les deux statuts possibles?
Oui, bien entendu. Donc, savoir le besoin de produire sa déclaration de revenus, c'est basé sur notre statut de résident. C'est pas la même chose que le statut d'immigration. Les deux sont différents. Donc, on est considéré comme un résident du Canada aux fins de l'impôt si on a établi des liens de résidence importants avec le Canada. Donc, les liens de résidence importants sont déterminés par des éléments comme est-ce qu'on a une maison ici ou est-ce qu'on loue une maison ici ou une habitation ou un logement? Est-ce qu'on a un conjoint ici? Puis est-ce qu'on a des personnes à charge? Donc, ça, c'est les trois premiers qu'on va regarder, c'est les plus importants. Donc, l'habitation, le conjoint et les personnes à charge. Ensuite, si on n'a pas ça, ce qui est souvent le cas pour les étudiants internationaux, ils arrivent ici, ils n'ont pas nécessairement d'enfants ou de conjoints avec eux. Donc, on va regarder les liens de résidence secondaires. Ça, ces liens de résidence, ça peut être des choses comme est-ce que j'ai des biens personnels ici? Est-ce que j'ai une auto? Est-ce que j'ai des factures à mon nom? Est-ce que j'ai des factures de fournisseurs de services comme le téléphone, l'électricité, le gaz, ces choses-là? Est-ce que j'ai des assurances? Est-ce que j'ai des assurances maladie du régime provincial? Est-ce que j'ai un compte de banque canadien? Donc, toutes ces choses-là qui vont nous créer un lien de résidence avec le Canada, bien, c'est ces choses-là qu'on va regarder en second lieu après les liens de résidence importants. Si vous avez des doutes sur votre statut de résidence, vous pourriez remplir le formulaire NR74 et l'ARC va vous émettre une opinion sur votre statut de résidence basée sur les renseignements que vous allez fournir dans le formulaire. C'est toutefois la responsabilité du contribuable de déterminer son statut de résidence aux fins de l'impôt.
Puis là, j'imagine qu'on peut parfois prendre pour acquis que les renseignements qu'on a fournis à Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada vont être partagés aux autres ministères, aux autres entités comme l'Agence revenue du Canada, mais ce n'est pas le cas. Il faut vraiment s'assurer de construire notre dossier.
Oui, c'est ça. Donc, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada ou IRCC, puis l'agence, c'est deux entités totalement distinctes. Donc, si on a l'impression d'avoir déjà fourni des renseignements à IRCC puis que nous, on vous redemande ces mêmes renseignements-là, c'est normal. Les renseignements ne se communiquent pas entre les deux agences. Donc, c'est vraiment important de faire vos impôts aussi, ce qui va nous donner aussi la date à laquelle vous êtes entré au Canada, puis pour pouvoir recevoir vos prestations et vos crédits. Aussi, pour ce qui est super important, une petite nuance pour les résidents temporaires. Donc, on pourrait vous demander aussi une copie de votre permis pour déterminer votre éligibilité à certaines prestations. C'est très important de nous fournir ces permis-là à jour. Si jamais vous renouvelez votre permis, permis d'études, permis de travail, des choses comme ça, pour qu'on puisse avoir les dates de début et dates de fin afin de déterminer votre admissibilité aux prestations et éviter qu'il y ait des coupures dans les paiements, qu'il y ait des interruptions dans les paiements des prestations.
Et puis donc, dans les choses à fournir, il y en a une qui est indispensable, c'est un numéro d'assurance sociale pour vraiment avoir un dossier qui est complet.
Oui, absolument. Donc, on a parlé déjà du principe d'autocotisation qui est super important, le principe de résidence aux fins de l'impôt. Maintenant, pour pouvoir travailler au Canada, on a besoin d'un numéro à 9 chiffres qu'on appelle le numéro d'assurance sociale ou le NAS. Donc, vous pouvez demander un NAS auprès de Service Canada, qui est une troisième entité gouvernementale. Donc, Service Canada, si Service Canada est dans l'impossibilité de vous attribuer un NAS, peut arriver, soit un AS temporaire ou un AS permanent, bien, l'agence, on va vous donner un numéro d'identification temporaire et ce numéro-là, vous pourrez l'utiliser pour produire vos impôts ou pour demander des crédits et des prestations jusqu'à ce qu'un AS vous soit attribué par Service Canada.
Donc, on évite les délais.
Oui, effectivement.
C'est ordinaire.
Donc, il y a plusieurs crédits prestations auxquels les nouveaux arrivants peuvent être admissibles et souvent même avant d'avoir produit une première déclaration de revenus. Donc, le premier, le plus commun, c'est le crédit pour la TPS-TVH. Donc, si vous êtes âgé d'au moins 10 29 ans et que vous êtes un résident du Canada au sein de l'impôt, comme on a mentionné plus tôt, vous pourriez être admissible au crédit pour la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, qu'on connaît sous le nom du crédit pour la TPS-CVH. Pour faire cette demande-là, avant de produire votre déclaration de revenus, vous devez remplir le formulaire RC-151. Donc, c'est un formulaire tout spécialement pour vous, pour pouvoir demander ce crédit-là, avant même de produire la déclaration de revenus. Le deuxième, c'est l'ACE, ou l'allocation canadienne pour enfants. Donc, si vous avez des enfants, vous pourriez être admissible à l'allocation canadienne pour enfants ou l'ACE. Il faut remplir le formulaire RC-66, demande de l'allocation canadienne pour enfants, et le formulaire RC-66-SCH, statut au Canada et renseignements sur les revenus pour la demande d'ACE. Donc, ça, c'est dépendamment de votre éligibilité. Vous pourriez demander ces crédits-là avant même de produire une déclaration de revenus.
Puis la bonne nouvelle, si je ne me trompe pas, c'est que les crédits peuvent même être rétroactifs.
Absolument. Les paiements peuvent être rétroactifs basés sur votre date d'arrivée ou votre date d'éligibilité. Donc, par exemple, pour le crédit TPS-CVH, si vous êtes arrivé en septembre, vous ne produirez pas de déclaration de revenus avant le mois d'avril prochain. Mais vous aurez probablement manqué les versements d'octobre, de janvier et d'avril, sauf si vous faites la demande via le formulaire RC-151 dont je vous ai parlé. Donc, si vous pensez que vous avez manqué des paiements, ce n'est pas grave. Envoyez-nous le formulaire et nous, on va se charger de calculer les paiements rétroactifs auxquels vous auriez pu avoir droit. Et si c'est le cas, on va vous faire parvenir ces versements-là. Il n'est pas trop tard pour appliquer.
Donc, ça revient vraiment à l'importance de faire sa déclaration l'année où vous arrivez au Canada, là, que vous ayez travaillé ou non, même sans revenu, ça vaut la peine de faire la déclaration.
Absolument, parce qu'une fois qu'on a commencé à recevoir les paiements, l'agence va se servir de vos déclarations d'impôts pour pouvoir calculer les montants futurs auxquels vous pourriez avoir droit. Donc, on commence par l'application, on vous envoie ce que vous avez droit. Ensuite, vous produisez chaque année. Et si vous avez un conjoint fait, il doit produire aussi, ou un époux en conjoint fait, donc doit produire aussi sa déclaration de revenus pour continuer à recevoir les paiements, pas qu'il y ait d'interruption dans le versement des paiements.
Et puis là, on parle des crédits auxquels on a droit, mais il y a aussi ceux qui épargnent. Alors, j'imagine qu'il y a possibilité également d'y aller avec certains régimes, que ce soit les REER ou les CELI.
Le REER est utilisé pour mettre de l'argent de côté en vue de la retraite. Donc, en tant que nouvel arrivant, vous pouvez contribuer, mais seulement l'année qui suit votre arrivée au Canada et seulement à la hauteur de votre maximum déductible ou à votre espace REER. Donc, ce montant-là, vous allez le trouver sur votre avis de cotisation que l'agence vous envoie après que vous ayez produit votre déclaration de revenus ou sur mon dossier. L'autre régime d'épargne, c'est le CELI, qui est un compte dans lequel vous ne paierez pas d'impôt sur les revenus qui sont générés. Donc, vos droits de cotisation au CELI augmentent seulement lorsque vous êtes résident du Canada au fin de l'impôt. Donc, vous pouvez seulement contribuer à votre CELI si vous avez 18 ans et plus, que vous êtes résident du Canada et que vous avez un NAS, le numéro d'assurance sociale, ou un numéro d'identification temporaire qui est valide. Si vous devenez un non-résident, vous pouvez garder votre CELI, mais vous pouvez juste plus y contribuer après le jour où vous devenez un non-résident. Donc, si vous êtes ici, vous contribuez à votre CELI et vous quittez le Canada de façon permanente, vous ne pourrez plus contribuer à votre CELI. Si jamais vous le faites, pareil, vous pourriez être sujet à une pénalité.
D'ailleurs, c'est un sujet là, sur lequel il y a beaucoup à dire. Alors, pour ceux qui sont curieux d'en savoir davantage et qui veulent creuser sur les CELI, les REER, les différences, les possibilités, vous pouvez écouter le deuxième épisode de la balado Impologie qui a été fait entièrement sur ce thème.
Oui, vous pouvez aussi aller sur notre tout nouveau module de comprendre vos impôts, qui est un nouveau module qui s'appelle Épargner pour l'avenir, où on parle aussi des CELI et des REER.
Donc, on ne manque pas de sources d'informations.
Absolument.
J'imagine, dans le cadre de votre poste, si vous recevez constamment des questions de la part des étudiants étrangers au sujet de leurs impôts, ça ne doit pas être facile toujours de démystifier tout ce qui vient avec ça. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'ils devraient savoir, des feuillets qu'ils doivent remplir et surtout qui est responsable de leur remettre?
Oui. Donc, pour produire sa déclaration de revenus, on utilise les feuillets qu'on reçoit. Donc, on a beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, si vous avez travaillé dans l'année, même à temps partiel, vous allez recevoir un feuillet T4 de votre employeur. Donc, le nom complet de ce feuillet-là, c'est T4, état de la rémunération payée. Mais tout le monde, il dit juste T4.
C'est bien suffisant.
Oui, absolument. Puis c'est un résumé hein, de votre revenu total et le total de vos déductions pour l'année pour cet employeur-là. Donc, chaque employeur va vous donner un T4 qui lui est propre. Outre le feuillet T4, les autres formulaires les plus courants qu'on peut recevoir à titre d'étudiant ou de nouvel arrivant, c'est le T2202 et le T4A. Donc, le feuillet T2202 s'appelle le certificat pour frais de scolarité et d'inscription. Ça, ça va vous permettre de réclamer vos frais de scolarité. Donc, vous recevez un T2202 si vous êtes étudiant. Donc, ça va vous permettre de réclamer vos frais de scolarité quand vous allez faire vos impôts. Vous devriez recevoir ce feuillet-là de votre école. La plupart du temps, il est disponible dans votre portail étudiant. Et il est super important de donner son NAS ou son numéro d'identification temporaire à l'institution scolaire afin que le feuillet soit bien relié à votre nom dans nos dossiers. Vous pouvez aussi recevoir d'autres feuillets qu'on appelle les T4A. Et ça, c'est si vous avez reçu, par exemple, des bourses d'études, des subventions de recherche ou d'autres montants qui sont des montants d'aide aux études.
Donc, c'est bien important de retenir que si on a eu plus d'un emploi, on aura un T4 remis pour chaque employeur. Donc, il faut ensuite les compiler et tous les avoir entre les mains quand on fait notre première déclaration.
Absolument.
Et puis là, on parle de ce qui est imposable, dont le salaire, mais j'imagine aussi qu'il y a d'autres types de choses qui sont imposables. Je pense aux étudiants qui reçoivent, par exemple, de l'argent de leurs parents, aux bourses d'études, les bourses d'entretien. Il y a plusieurs choses différentes, formes de revenus quand on est étudiant. Alors, qu'est-ce qui est imposable là-dedans?
Ça, c'est une super bonne question qu'on reçoit de façon continue dans nos sessions d'information. Donc, qu'est-ce qui est imposable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, quand on reçoit un feuillet T4A pour nos bourses, mettons les bourses et subventions, on doit les entrer dans notre déclaration. Cependant, si on pourrait être admissible en tant qu'étudiant, on pourrait être admissible à une exemption si on est inscrit en tant qu'étudiant à temps plein. Dans ce cas-là, le feuillet n'a pas besoin d'être inclus dans la déclaration et la bourse sera non imposable. L'argent qu'on reçoit de nos parents pour nous aider, soit avec nos dépenses courantes ou en cadeau. Donc, ça, ces montants-là, ils n'ont pas à être inclus dans une déclaration de revenus. Ce n'est pas du revenu imposable, c'est des cadeaux. C'est la même chose avec l'argent qu'on transfère, par exemple, de notre compte bancaire dans notre pays d'origine à notre compte bancaire canadien. Ces transferts-là, ce n'est pas considéré comme du revenu, donc ce n'est pas à être imposable, ce n'est pas à être inclus dans la déclaration quand on fait nos impôts, ce n'est pas du revenu.
Et puis, qui dit étudiant étranger dit par définition déménagement. Il faut s'installer, il faut vraiment des fois bouger, on peut changer d'appartement en cours d'année. Donc, est-ce que c'est des frais qui sont couverts ou qu'on peut réclamer?
Oui, c'est des frais qu'on peut réclamer, les frais de déménagement. Donc, on pourrait réclamer des frais de déménagement si on a déménagé pour se rapprocher de plus de 40 km de son école pour étudier à temps plein contre un revenu imposable de bourse d'études. Donc, il y a des particularités. Je vous invite à aller consulter le site Internet pour savoir si vous êtes admissible à réclamer ces frais-là.
Alors, on disait tantôt, évidemment, tu reçois des questions dans le cadre de ton travail. Il y a aussi des sessions d'information qui sont offertes. Alors, si on faisait le tour des ressources puis de toute l'aide là, qui est disponible, les nouveaux arrivants, les étudiants étrangers, est-ce que tu peux nous faire un peu l'inventaire des différents types de ressources qu'ils ont?
Donc, si vous utilisez les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn ou sur X. Nous, on partage souvent des renseignements sur ces réseaux sociaux-là. On a aussi créé un outil en ligne avec des renseignements simples et faciles à comprendre qui s'appelle « Comprendre vos impôts » pour aider les nouveaux arrivants, entre autres, à comprendre tous les aspects des impôts et de s'assurer qu'ils reçoivent les paiements et les crédits auxquels ils ont droit. Donc, c'est un outil qui est incroyable pour ceux qui veulent en apprendre davantage sur les impôts. C'est écrit en langage simple, clair, présenté de façon facile à comprendre. Ça comprend aussi des cours vidéo de 3 minutes. Ainsi que des fiches explicatives. Donc, comprendre vos impôts vous présente le système fiscal canadien, comment faire vos impôts et les avantages que vous pourriez tirer de produire vos déclarations de revenus. Une autre ressource super utile, c'est les services en ligne de l'agence. Donc, après avoir produit votre première déclaration de revenus, donc après avoir fait une première déclaration d'impôts, On vous encourage fortement à vous inscrire à mon dossier. Ça va vous permettre de gérer vos renseignements personnels rapidement, en ligne, de consulter vos feuillets de renseignement. Donc, les feuillets de renseignement, c'est comme j'expliquais tantôt, c'est tout ce qui commence par T, T4, T14, T2202. Ça va vous permettre aussi de vous inscrire au dépôt direct pour que vous n'ayez pas nécessairement à nous appeler au centre de contact. Le dépôt direct, c'est une façon sécuritaire et rapide de recevoir vos paiements du gouvernement directement dans votre compte bancaire canadien, beaucoup plus efficace que de recevoir un chèque.
Et moins de risque de perdre le chèque dans la poste.
Malheureusement, ça arrive. Donc, le dépôt direct, c'est vraiment utile, puis c'est sécuritaire, puis c'est vraiment beaucoup plus rapide.
Surtout si on a déménagé, enfin, les adresses ne sont pas toujours suivies en temps réel, donc c'est vraiment la meilleure façon de s'assurer de tout avoir en temps réel.
Effectivement, le dépôt direct est super sécuritaire et ça évite de perdre des chèques. Si jamais vous déménagez et vous changez d'adresse, c'est super important d'en informer l'Agence du revenu du Canada aussi, même si vous recevez vos chèques par dépôt direct. Un changement d'adresse, si on vous envoie de la documentation et qu'on n'a pas la bonne adresse au dossier, les dépôts directs pourraient être interrompus aussi.
Ça me fait penser aussi qu'on a des ressources en ligne que je voulais mentionner pour comment faire sa déclaration en 8 étapes qui sont vraiment pratiques pour savoir qu'est-ce qu'on doit avoir sous la main, comment utiliser un logiciel, où aller. C'est vraiment très intéressant. Et puis, si on suit les étapes, on peut difficilement se tromper.
On partage aussi beaucoup de renseignements qui sont destinés aux nouveaux arrivants par le biais de notre programme de visibilité, comme je vous l'expliquais tantôt, via les sessions d'information et en collaboration avec les organismes communautaires qui sont partenaires avec nous. Finalement, si vous avez besoin d'aide pour faire votre déclaration d'impôt, bien, il existe des cliniques d'impôt gratuites qui sont disponibles pour vous. Si vous avez une situation fiscale qui est simple, bien, vous pourriez être admissible à recevoir de l'aide gratuitement d'un bénévole qui produira vos impôts pour vous, encore une fois, gratuitement. Et ça, c'est via le programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.
Oui, qui, soit dit en passant, pour ceux qui pourraient nous écouter dans la province du Québec, s'appelle le Service d'aide à l'impôt au programme des bénévoles, puisqu'au Québec, il est administré conjointement avec nos partenaires de Revenu Québec. Donc, vous aurez la chance de pouvoir faire vos 2 déclarations par un bénévole formé et fort compétent qui sera là pour vous accompagner dans le processus.
Absolument.
Alors, Marie-Laure, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est tellement d'informations pertinentes, il y a tellement de choses à savoir. Pour ceux qui voudraient en apprendre un peu davantage ou trouver des informations, où est-ce qu'il y a un endroit où on devrait les diriger?
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Donc, une adresse web à laquelle j'aimerais vous rediriger, donc canada.ca/comprendre-impôts avec un S. Ça va vous amener à l'outil Comprendre vos impôts dont je vous ai parlé dans ce balado. Et de là, vous pourrez aussi avoir toute l'information, tous les renseignements pertinents.
Génial. Merci encore.
Plaisir.
Alors, merci Marie-Claude d'avoir participé à l'épisode avec nous aujourd'hui. On espère vraiment que vous en avez appris davantage sur le régime fiscal canadien, les avantages qui y sont liés et la façon de faire vos impôts. Pour en savoir plus, je vous rappelle que vous pouvez consulter le cours « Comprendre vos impôts » à la page canada.ca/comprendre-impôts avec un S. Vous allez y trouver des courtes vidéos, des leçons intéressantes, des jeux questionnaires, tout ce qu'il faut pour améliorer vos connaissances. Vous pouvez aussi avoir de l'information en tout temps sur nos plateformes, nos pages Facebook, X et Instagram, au commercial Agence Rêve Can. En passant, je blaguais tantôt quand je suis le sirop d'érable allait surtout. Peut-être pas, vous allez devoir tester. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que vous allez non seulement survivre à la poutine, mais probablement créer une dépendance. Quoi qu'il en soit, c'était Carl Philippe. Merci de votre écoute. Je vais maintenant aller mettre du sirop d'érable sur ma poutine et je vous invite à rester prudent et à faire vos impôts.